Le rouge et le noir, chapitre 18. Un roi à Verrières. N'êtes-vous bon qu'à jeter là comme un cadavre de peuple, sans âme et dont les veines n'ont plus de sang? Discours de l'évêque à la chapelle de Saint-Clément. Le 3 septembre, à 10 heures du soir, un gendarme réveilla tout Verrières en montant la grande rue au galop. Il apportait la nouvelle que Sa Majesté le roi de... arrivait le dimanche suivant, et l'on était au mardi. Le préfet autorisait, c'est-à-dire demandait, la formation d'une garde d'honneur. Il fallait déployer toute la pompe possible. Une estafette fut expédiée à Vergy. Monsieur de Rênal arriva dans la nuit et trouva la ville en émoi. Chacun avait ses prétentions. Les moins affairés louaient des balcons pour voir l'entrée du roi. Qui commandera la garde d'honneur? Monsieur de Rênal vit tout de suite combien il importait, dans l'intérêt des maisons sujettes à reculer, que monsieur de Moirod eût ce commandement. Cela pouvait faire titre pour la place de premier adjoint. Il n'y avait rien à dire à la dévotion de monsieur de Moirod. Elle était au-dessus de toute comparaison, mais jamais il n'avait monté à cheval. C'était un homme de 36 ans, timide de toutes les façons et qui craignait également les chutes et le ridicule. Le maire le fit appeler dès les 5 heures du matin. « Vous voyez, monsieur, que je réclame vos avis, comme si déjà vous occupiez le poste auquel tous les honnêtes gens vous portent. Dans cette malheureuse ville, les manufactures prospèrent. Le parti libéral devient millionnaire, il aspire au pouvoir. » Il saura se faire des armes de tout. Consultons l'intérêt du roi, celui de la monarchie, et avant tout l'intérêt de notre sainte religion. À qui pensez-vous, monsieur, que l'on puisse confier le commandement de la garde d'honneur? Malgré la peur horrible que lui faisait le cheval, monsieur de Moirod finit par accepter cet honneur comme un martyr. « Je saurai prendre un ton convenable. » dit-il au maire. À peine restait-il le temps de faire arranger les uniformes qui, 7 ans auparavant, avaient servi lors du passage d'un prince du sang. À 7 heures, madame de Rênal arriva de Vergy avec Julien et les enfants. Elle trouva son salon rempli de dames libérales qui prêchaient l'union des partis et venait la supplier d'engager son mari à accorder une place au leur dans la garde d'honneur. L'une d'elles prétendait que si son mari n'était pas élu, de chagrin il ferait banqueroute. Madame de Rênal renvoya bien vite tout ce monde. Elle paraissait fort occupée. Julien fut étonné, et encore plus fâché qu'elle lui fît un mystère de ce qui l'agitait. « Je l'avais prévu. » se disait-il avec amertume. Son amour s'éclipse devant le bonheur de recevoir un roi dans sa maison. Tout ce tapage l'éblouit. Elle m'aimera de nouveau quand les idées de sa caste ne lui troubleront plus la cervelle. Chose étonnante, il l'en aima davantage. Les tapissiers commençaient à remplir la maison. Il épia longtemps en vain l'occasion de lui dire un mot. Enfin, il la trouva qui sortait de sa chambre à lui, Julien, en portant un de ses habits. Ils étaient seuls, il voulut lui parler. Elle s'enfuit en refusant de l'écouter. « Je suis bien sot d'aimer une telle femme. L'ambition la rend aussi folle que son mari. » Elle l'était davantage. Un de ses grands désirs qu'elle n'avait jamais avoué à Julien de peur de le choquer, était de le voir quitter, ne fût-ce que pour un jour, son triste habit noir. Avec une adresse vraiment admirable chez une femme si naturelle, elle obtint d'abord de monsieur de Moirod et ensuite de monsieur le sous-préfet de Maugiron que Julien serait nommé garde d'honneur de préférence à 5 ou 6 jeunes gens, fils de fabricants fort aisés et dont 2 au moins étaient d'une exemplaire piété. Monsieur Valenod, qui comptait prêter sa calèche aux plus jolies femmes de la ville et faire admirer ses beaux Normands, consentit à donner un de ses chevaux à Julien, l'être qu'il haïssait le plus. Mais tous les gardes d'honneur avaient à eux, ou d'emprunt quelqu'un de ses beaux habits bleus de ciel, avec deux épaulettes de colonel en argent, qui avaient brillé 7 ans auparavant. Madame de Rênal voulait un habit neuf, et il ne lui restait que 4 jours pour envoyer à Besançon et en faire revenir l'habit d'uniforme, les armes, le chapeau, etc. Tout ce qui fait un garde d'honneur. Ce qu'il y a de plaisant, c'est qu'elle trouvait imprudent de faire faire l'habit de Julien à Verrières. Elle voulait le surprendre, lui et la ville. Le travail des gardes d'honneur et de l'esprit public terminé, le maire eut à s'occuper d'une grande cérémonie religieuse. Le roi de ne voulait pas passer à Verrières sans visiter la fameuse relique de Saint Clément que l'on conserve à Bray-le-Haut, à une petite lieue de la ville. On désirait un clergé nombreux, ce fut l'affaire la plus difficile à arranger. Monsieur Malson, le nouveau curé, voulait à tout prix éviter la présence de monsieur Chélan. En vain, monsieur de Rênal lui représentait qu'il y aurait imprudence. Monsieur le marquis de La Mole, dont les ancêtres ont été si longtemps gouverneurs de la province, avait été désigné pour accompagner le roi de Il connaissait depuis 30 ans l'abbé Chélan. Il demanderait certainement de ses nouvelles en arrivant à Verrières, et s'il le trouvait disgracié, il était homme à aller le chercher dans la petite maison où il s'était retiré, accompagné de tout le cortège dont il pourrait disposer. Quel soufflet! « Je suis déshonoré ici et à Besançon, » répondait l'abbé Malson. « S'il paraît dans mon clergé, un janséniste, grand Dieu !»« Quoi que vous en puissiez dire, mon cher abbé, » répliquait monsieur de Rênal, « je n'exposerai pas l'administration de Verrières à recevoir un affront de monsieur de La Mole. Vous ne le connaissez pas, il pense bien à la cour. Mais ici, en province, c'est un mauvais plaisant satirique, moqueur, ne cherchant qu'à embarrasser les gens. Il est capable, uniquement pour s'amuser, de nous couvrir de ridicule aux yeux des libéraux. » Ce ne fut que dans la nuit du samedi au dimanche, après 3 jours de pourparlers, que l'orgueil de l'abbé Massion plia devant la peur du maire qui se changeait en courage. Il fallut écrire une lettre mielleuse à l'abbé Chélan pour le prier d'assister à la cérémonie de la relique de Bray-le-Haut, si toutefois son grand âge et ses infirmités le lui permettaient. Monsieur Chélan demanda et obtint une lettre d'invitation pour Julien, qui devait l'accompagner en qualité de sous-diacre. Dès le matin du dimanche, des milliers de paysans arrivant des montagnes voisines inondèrent les rues de Verrières. Il faisait le plus beau soleil. Enfin, vers les 3 heures, toute cette foule fut agitée. On apercevait un grand feu sur un rocher à 2 lieues de Verrières. Ce signal annonçait que le roi venait d'entrer sur le territoire du département. Aussitôt le son de toutes les cloches et les décharges répétées d'un vieux canon espagnol appartenant à la ville marquèrent sa joie de ce grand événement. La moitié de la population monta sur les toits. Toutes les femmes étaient au balcon. La garde d'honneur se mit en mouvement. On admirait les brillants uniformes, chacun reconnaissait un parent, un ami. On se moquait de la peur de monsieur de Moirot, dont à chaque instant la main prudente était prête à saisir l'arçon de sa selle. Mais une remarque fit oublier toutes les autres. Le premier cavalier de la 9e file était un fort joli garçon, très mince, que d'abord on ne reconnut pas. Bientôt, un cri d'indignation chez les uns, chez d'autres le silence de l'étonnement, annoncèrent une sensation générale. On reconnaissait dans ce jeune homme, montant un des chevaux normands de M. Valenod, le petit Sorel, fils du charpentier. Il n'y eut qu'un cri contre le maire, surtout parmi les libéraux. Quoi ? Parce que ce petit ouvrier déguisé en abbé était précepteur de ces marmots, il avait l'audace de le nommer garde d'honneur, au préjudice de messieurs tels et tels, riches fabricants. « Ces messieurs, disait une dame banquière. « Devrait bien faire une avanie à ce petit insolent, né dans la crotte. »«
Il est sournois et porte un sabre, » répondait le voisin. « Il serait assez traître pour leur couper la figure. »
Les propos de la société noble étaient plus dangereux. Les dames se demandaient si c'était du maire tout seul que provenait cette haute inconvenance. En général, on rendait justice à son mépris pour le défaut de naissance. Pendant qu'il était l'occasion de tant de propos, Julien était le plus heureux des hommes. Naturellement hardi, il se tenait mieux à cheval que la plupart des jeunes gens de cette ville de montagne. Il voyait dans les yeux des femmes qu'il était question de lui. Ses épaulettes étaient plus brillantes parce qu'elles étaient neuves. Son cheval se cabrait à chaque instant. Il était au comble de la joie. Son bonheur n'eut plus de bornes lorsque, passant près du vieux rempart, le bruit de la petite pièce de canon fit sauter son cheval hors du rang. Par un grand hasard, il ne tomba pas. De ce moment, il se sentit un héros. Il était officier d'ordonnance de Napoléon et chargeait une batterie. Une personne était plus heureuse que lui. D'abord, elle l'avait vu passer d'une des croisées de l'hôtel de ville. Montant ensuite en calèche et faisant rapidement un grand détour, elle arriva à temps pour frémir quand son cheval l'emporta hors du rang. Enfin, sa calèche sortant au grand galop par une autre porte de la ville, elle parvint à rejoindre la route par où le roi devait passer et put suivre la garde d'honneur à 20 pas de distance au milieu d'une noble poussière. 10 000 paysans crièrent « Vive le roi !» quand le maire eut l'honneur de haranguer sa majesté. Une heure après, lorsque, tous les discours écoutés, le roi allait entrer dans la ville, la petite pièce de canon se remit à tirer à coups précipités. Mais un accident s'ensuivit. Non pour les canonniers qui avaient fait leur preuve à Leipzig et à Montmirail, mais pour le futur premier adjoint, M. de Moirod. Son cheval le déposa mollement dans l'unique bourbier qui fut sur la grande route, ce qui fit esclandre, parce qu'il fallut le tirer de là pour que la voiture du roi pût passer. Sa Majesté descendit à la belle église neuve qui, ce jour-là, était parée de tous ses rideaux cramoisis. Le roi devait dîner et, aussitôt après, remonter en voiture pour aller vénérer la célèbre relique de Saint Clément. À peine le roi fut-il à l'église que Julien galopa vers la maison de M. de Rênal. Là, il quitta en soupirant son bel habit bleu de ciel, son sabre, ses épaulettes, pour reprendre le petit habit noir râpé. Il remonta à cheval et en quelques instants fut à Bray-le-Haut, qui occupe le sommet d'une fort belle colline. L'enthousiasme multiplie ses paysans, pensa Julien. On ne peut se remuer à Verrières, et en voici plus de 10 000 autour de cette antique abbaye. À moitié ruinée par le vandalisme révolutionnaire, elle avait été magnifiquement rétablie depuis la Restauration, et l'on commençait à parler de miracle. Julien rejoignit l'abbé Chélan, qui le gronda fort, et lui remit une soutane et un surplis. Il s'habilla rapidement, et suivit M. Chélan qui se rendait auprès du jeune évêque d'Agde. C'était un neveu de M. de la Mole, récemment nommé, et qui avait été chargé de montrer la relique au roi. Mais l'on ne put trouver cet évêque. Le clergé s'impatientait. Il attendait son chef dans le cloître sombre et gothique de l'ancienne abbaye. On avait réuni 24 curés pour figurer l'ancien chapitre de Bray-le-Haut, composé avant 1789 de 24 chanoines. Après avoir déploré pendant 3 quarts d'heure la jeunesse de l'évêque, les curés pensèrent qu'il était convenable que M. le doyen se retirât vers Monseigneur pour l'avertir que le roi allait arriver et qu'il était instant de se rendre au cœur. Le grand âge de M. Chélan l'avait fait doyen. Malgré l'humeur qu'il témoignait à Julien, il lui fit que il avait rendu ses beaux cheveux bouclés très plats. Mais,
par un oubli qui redoubla la colère de monsieur Chélan, sous les longs plis de sa soutane, on pouvait apercevoir les éperons du garde d'honneur. Arrivés à l'appartement de l'évêque, de grands laquais, bien chamarrés, daignèrent à peine répondre au vieux curé que monseigneur n'était pas visible. On se moqua de lui quand il voulut expliquer qu'en sa qualité de doyen du chapitre, noble de Bray-le-Haut, il avait le privilège d'être admis en tout temps auprès de l'évêque officiant. L'humeur hautaine de Julien fut choquée de l'insolence des laquais. Il se mit à parcourir les dortoirs de l'antique abbaye, secouant toutes les portes qu'il rencontrait. Une fort petite céda à ses efforts, et il se trouva dans une cellule au milieu des valets de chambre de monseigneur, en habit noir et la chaîne au cou. À son air pressé, ces messieurs le crurent mandé par l'évêque et le laissèrent passer. Il fit quelques pas et se trouva dans une immense salle gothique, extrêmement sombre, et toute lambrissée de chaînes noires. À l'exception d'une seule, les fenêtres en ogive avaient été murées avec des briques. La grossièreté de cette maçonnerie n'était déguisée par rien et faisait un triste contraste avec l'antique magnificence de la boiserie. Les deux grands côtés de cette salle, célèbre parmi les antiquaires bourguignons, et que le duc Charles le Téméraire avait fait bâtir vers 1470 en expiation de quelques péchés, étaient garnis de stalles de bois richement sculptées. On y voyait, figurés en bois de différentes couleurs, tous les mystères de l'Apocalypse. Cette magnificence mélancolique, dégradée par la vue des briques nues et du plâtre encore tout blanc, toucha Julien. Il s'arrêta en silence. À l'autre extrémité de la salle, près de l'unique fenêtre par laquelle le jour pénétrait, il vit un miroir mobile en acajou. Un jeune homme, en robe violette et en surplis de dentelle, mais la tête nue, était arrêté à trois pas de la glace. Ce meuble semblait étrange en un tel lieu, et sans doute y avait été apporté de la ville. Julien trouva que le jeune homme avait l'air irrité. De la main droite, il donnait gravement des bénédictions du côté du miroir. « Que peut signifier ceci ? » pensa-t-il. « Est-ce une cérémonie préparatoire qu'accomplit ce jeune prêtre ? C'est peut-être le secrétaire de l'évêque. Il sera insolent comme les laquais. Ma foi, n'importe. Essayons. » Il avança et parcourut assez lentement la longueur de la salle, toujours la vue fixée vers l'unique fenêtre, et regardant ce jeune homme qui continuait à donner des bénédictions, exécutées lentement mais en nombre infini et sans se reposer un instant. À mesure qu'il approchait, il distinguait mieux son air fâché. La richesse du surplis garni de dentelles arrêta involontairement Julien à quelques pas du magnifique miroir. « Il est de mon devoir de parler, » se dit-il enfin. Mais la beauté de la salle l'avait ému, et il était froissé d'avance des mots durs qu'on allait lui adresser. Le jeune homme le vit dans la psyché, se retourna, et, quittant subitement l'air fâché, lui dit du ton le plus doux, « Eh bien, monsieur, est-elle enfin arrangée ?» Julien resta stupéfait. Comme ce jeune homme se tournait vers lui, Julien vit la croix pectorale sur sa poitrine. C'était l'évêque d'Agde. « Si jeune !» pensa Julien. « Tout au plus 6 ou 8 ans de plus que moi !» Et il eut honte de ses éperons. « Monseigneur, répondit-il timidement, je suis envoyé par le doyen du chapitre, monsieur Chélan. « Ah, il m'est fort recommandé !» dit l'évêque d'un ton poli qui redoubla l'enchantement de Julien. « Mais je vous demande pardon, monsieur, je vous prenais pour la personne qui doit me rapporter ma mitre. On l'a mal emballée à Paris. La toile d'argent est horriblement gâtée vers le haut. Cela fera le plus vilain effet !» ajouta le jeune évêque d'un air triste. « Et encore on me fait attendre !» « Monseigneur, je vais chercher la mitre, si votre grandeur le permet. » Les beaux yeux de Julien firent leur effet. « Allez, monsieur, » répondit l'évêque avec une politesse charmante, « il me la faut sur le champ. Je suis désolé de faire attendre messieurs du chapitre. » Quand Julien fut arrivé au milieu de la salle, il se retourna vers l'évêque et le vit qui s'était remis à donner des bénédictions.
« Qu'est-ce que cela peut être ? » se demanda Julien.
« Sans doute c'est une préparation ecclésiastique nécessaire à la cérémonie qui va avoir lieu. » Comme il arrivait dans la cellule où se tenaient les valets de chambre, il vit la mitre entre leurs mains. Ces messieurs, cédant malgré eux au regard impérieux de Julien, lui remirent la mitre de Monseigneur. Il se sentit fier de la porter. En traversant la salle, il marchait lentement, il la tenait avec respect. Il trouva l'évêque assis devant la glace, mais de temps à autre, sa main droite, quoique fatiguée, donnait encore la bénédiction. Julien l'aida à placer sa mitre. L'évêque secoua la tête.
« Ah, elle tiendra !» dit-il à Julien d'un air content.
« Voulez-vous vous éloigner un peu ?» Alors l'évêque alla fort vite au milieu de la pièce, puis, se rapprochant du miroir, à pas lents, il reprit l'air fâché et donnait gravement des bénédictions. Julien était immobile d'étonnement. Il était tenté de comprendre, mais n'osait pas. L'évêque s'arrêta, et le regardant avec un air qui perdait rapidement de sa gravité,
« Que dites-vous de ma mitre, monsieur ? Va-t-elle bien ?»«
Fort bien, monseigneur.
Elle n'est pas trop en arrière, cela aurait l'air un peu niais, mais il ne faut pas non plus la porter baissée sur les yeux comme un shako d'officier. »
« Elle me semble aller fort bien.
Le roi de est accoutumé à un clergé vénérable et sans doute fort grave. Je ne voudrais pas, à cause de mon âge surtout, avoir l'air trop léger. » Et l'évêque se mit de nouveau à marcher en donnant des bénédictions.
« C'est clair, » dit Julien, osant enfin comprendre. « Il s'exerce à donner la bénédiction. »
Après quelques instants, « Je suis prêt. » dit l'évêque. « Allez, monsieur, avertir monsieur le doyen et messieurs du chapitre. » Bientôt, monsieur Chélan, suivi des deux curés les plus âgés, entra par une fort grande porte magnifiquement sculptée et que Julien n'avait pas aperçue. Mais cette fois, il resta à son rang, le dernier de tous, et ne put voir l'évêque que par-dessus les épaules des ecclésiastiques qui se pressaient en foule à cette porte. L'évêque traversait lentement la salle. Lorsqu'il fut arrivé sur le seuil, les curés se formèrent en procession. Après un petit moment de désordre, la procession commença à marcher en entonnant un psaume. L'évêque s'avançait le dernier, entre M. Chélan et un autre curé fort vieux. Julien se glissa tout à fait près de Monseigneur, comme attaché à l'abbé Chélan. On suivit les longs corridors de l'abbaye de Bray-le-Haut. Malgré le soleil éclatant, ils étaient sombres et humides. On arriva enfin au portique du cloître. Julien était stupéfait d'admiration pour une si belle cérémonie. L'ambition réveillée par le jeune âge de l'évêque, la sensibilité et la politesse exquise de ce prélat se disputaient son cœur. Cette politesse était bien autre chose que celle de M. de Rênal, même dans ses bons jours. « Plus on s'élève vers le premier rang de la société, se dit Julien, plus on trouve de ses manières charmantes. » On entrait dans l'église par une porte latérale. Tout à coup, un bruit épouvantable fit retentir ses voûtes antiques. Julien crut qu'elle s'écroulait. C'était encore la petite pièce de canon. Traînée par 8 chevaux au galop, elle venait d'arriver. Et à peine arrivée, mise en batterie par les canonniers de Leipzig, elle tirait 5 coups par minute, comme si les Prussiens eussent été devant elle. Mais ce bruit admirable ne fit plus d'effet sur Julien. Il ne songeait plus à Napoléon et à la gloire militaire. « Si jeune, pensait-il, être évêque d'Agde. Mais où est Agde ? Et combien cela rapporte-t-il ?
200 ou 300 000 francs peut-être.
Les laquais de Monseigneur parurent avec un dais magnifique. Monsieur Chélan prit l'un des bâtons, mais dans le fait, ce fut Julien qui le porta. L'évêque se plaça dessous. Réellement, il était parvenu à se donner l'air vieux. L'admiration de notre héros n'eut plus de bornes. « Que ne fait-on pas avec de l'adresse ? » pensa-t-il.
Le roi entra. Julien eut le bonheur de le voir de très près. L'évêque le harangua avec onction et sans oublier une petite nuance de trouble, fort polie pour sa majesté. Nous ne répéterons point la description des cérémonies de Pré-le-Haut. Pendant 15 jours, elles ont rempli les colonnes de tous les journaux du département. Julien apprit par le discours de l'évêque que le roi descendait de Charles le Téméraire. Plus tard, il entra dans les fonctions de Julien de vérifier les comptes de ce qu'avait coûté cette cérémonie. Monsieur de La Mole, qui avait fait avoir un évêché à son neveu, avait voulu lui faire la galanterie de se charger de tous les frais. La seule cérémonie de Bray-le-Haut coûta 3 800 francs. Après le discours de l'évêque et la réponse du roi, Sa Majesté se plaça sous le dais. Ensuite, elle s'agenouilla fort dévotement sur un coussin près de l'autel. Le chœur était environné de stalles, et les stalles élevées de 2 marches sur le pavé. C'était sur la dernière de ces marches que Julien était assis au pied de Monsieur Chélan, à peu près comme un caudataire près de son cardinal à la chapelle Sixtine à Rome. Il y eut un Te Deum, des flots d'encens, des décharges infinies de mousqueterie et d'artillerie. Les paysans étaient ivres de bonheur et de piété. Une telle ouvrage défait l'ouvrage de 100 numéros des journaux jacobins. Julien était à 6 pas du roi, qui réellement priait avec abandon. Il remarqua, pour la première fois, un petit homme au regard spirituel et qui portait un habit presque sans broderie. Mais il avait un cordon bleu de ciel par-dessus cet habit fort simple. Il était plus près du roi que beaucoup d'autres seigneurs, dont les habits étaient tellement brodés d'or que, suivant l'expression de Julien, on ne voyait pas le drap. Il apprit quelques moments après que c'était Monsieur de La Mole. Il lui trouva l'air hautain et même insolent. « Ce marquis ne serait pas poli comme mon joli évêque, » pensa-t-il. « Ah, l'état ecclésiastique rend doux et sage. Mais le roi est venu pour vénérer la relique, et je ne vois point de relique. Où sera Saint-Clément ?» Un petit clerc, son voisin, lui apprit que la vénérable relique était dans le haut de l'édifice, dans une chapelle ardente. « Qu'est-ce qu'une chapelle ardente ?» se dit Julien. Mais il ne voulait pas demander l'explication de ce mot. Son attention redoubla. En cas de visite d'un prince souverain, l'étiquette veut que les chanoines n'accompagnent pas l'évêque. Mais en se mettant en marche pour la chapelle ardente, Monseigneur d'Agde appela l'abbé Chélan. Julien osa le suivre. Après avoir monté un long escalier, on parvint à une porte extrêmement petite, mais dont le chambranle gothique était doré avec magnificence. Cet ouvrage avait l'air fait de la veille. Devant la porte étaient réunies à genoux 24 jeunes filles appartenant aux familles les plus distinguées de Verrières. Avant d'ouvrir la porte, l'évêque se mit à genoux au milieu de ces jeunes filles toutes jolies. Pendant qu'il priait à haute voix, elle semblait ne pouvoir assez admirer ses belles dentelles, sa bonne grâce, sa figure si jeune et si douce. Ce spectacle fit perdre à notre héros ce qui lui restait de raison. En cet instant, il se fut battu pour l'Inquisition, et de bonne foi. La porte s'ouvrit tout à coup. La petite chapelle parut comme embrasée de lumière. On apercevait sur l'autel plus de 1 000 cierges, divisés en 8 rangs, séparés entre eux par des bouquets de fleurs. L'odeur suave de l'encens le plus pur sortait en tourbillon de la porte du sanctuaire. La chapelle dorée à neuf était fort petite, mais très élevée. Julien remarqua qu'il y avait sur l'autel des cierges qui avaient plus de 15 pieds de haut. Les jeunes filles ne purent retenir un cri d'admiration. On avait admis dans le petit vestibule de la chapelle que les 24 jeunes filles, les deux curés et Julien. Bientôt le roi arriva, suivi du seul monsieur de la Mole et de son grand chambellan. Les gardes eux-mêmes restèrent en dehors, à genoux et présentant les armes. Sa Majesté se précipita plutôt qu'elle ne se jeta sur le prie-Dieu. Ce fut alors seulement que Julien, collé contre la porte dorée, aperçut, par-dessous le bras nu d'une jeune fille, la charmante statue de Saint-Clément. Il était caché sous l'autel, en costume de jeune soldat romain. Il avait au cou une large blessure d'où le sang semblait couler. L'artiste s'était surpassé. Ses yeux mourants, mais pleins de grâce, étaient à demi fermés. Une moustache naissante cernait cette bouche charmante, qui, à demi fermée, avait encore l'air de prier. À cette vue, la jeune fille voisine de Julien pleura à chaudes larmes. Une de ses larmes tomba sur la main de Julien. Après un instant de prière dans le plus profond silence, troublé seulement par le son lointain des cloches de tous les villages à 10 lieues à la ronde, l'évêque d'Agde demanda au roi la permission de parler. Il finit un petit discours fort touchant par des paroles simples, mais dont l'effet n'en était que mieux assuré. « N'oubliez jamais, jeune chrétienne, que vous avez vu l'un des plus grands rois de la terre, à genoux devant les serviteurs de ce Dieu tout-puissant et terrible. Ces serviteurs faibles, persécutés, assassinés sur la terre, comme vous le voyez par la blessure encore cinglante de Saint-Clément, ils triomphent au ciel. N'est-ce pas, jeune chrétienne, vous vous souviendrez à jamais de ce jour, vous détesterez l'impie. À jamais vous serez fidèle à ce Dieu si grand, si terrible, mais si bon. » À ces mots, l'évêque se leva avec autorité. « Vous me le promettez ? » dit-il en avançant le bras d'un air inspiré. « Nous le promettons !» dirent les jeunes filles en fondant en larmes. « Je reçois votre promesse, au nom du Dieu terrible !» ajouta l'évêque d'une voix tonnante. Et la cérémonie fut terminée. Le roi lui-même pleurait. Ce ne fut que longtemps après que Julien eut assez de sang-froid pour demander où étaient les os du saint envoyé de Rome à Philippe le bon duc de Bourgogne. On lui apprit qu'ils étaient cachés dans la charmante figure de cire. Sa Majesté daigna permettre aux demoiselles qui l'avaient accompagné dans la chapelle de porter un ruban rouge sur lequel étaient brodés ces mots « Haine à l'impie, adoration perpétuelle ». Monsieur de la Mole fit distribuer aux paysans 10 000 bouteilles de vin. Le soir, à Verrières, les libéraux trouvèrent une raison pour illuminer 100 fois mieux que les royalistes. Avant de partir, le roi fit une visite à Monsieur de Moirod. Chapitre 19. Pensée fait souffrir. Le grotesque des événements de tous les jours vous cache le vrai malheur des passions. Barnave. En replaçant les meubles ordinaires dans la chambre qu'avait occupée Monsieur de la Mole, Julien trouva une feuille de papier très fort pliée en 4. Il lut au bas de la première page « A. S. S. » Monsieur le marquis de la Mole, pair de France, chevalier des ordres du roi, etc., etc. C'était une pétition en grosse écriture de cuisinière. Monsieur le marquis, j'ai eu toute ma vie des principes religieux. J'étais dans Lyon exposé aux bombes lors du siège en 93 d'exécrable mémoire. Je communie, Je vais tous les dimanches à la messe en l'église paroissiale. Je n'ai jamais manqué au devoir pascal, même en 93 d'exécrable mémoire. Ma cuisinière, avant la Révolution, j'avais des gens. Ma cuisinière fait maigre le vendredi. Je jouis dans Verrières d'une considération générale et, j'ose dire, méritée. Je marche sous le dais dans les processions, à côté de monsieur le curé et de monsieur le maire. Je porte, dans les grandes occasions, un gros cierge acheté à mes frais. De tout quoi les certificats sont à Paris au ministère des Finances. Je demande à monsieur le marquis le bureau de loterie de Verrières, qui ne peut manquer d'être bientôt vacant d'une manière ou d'une autre, le titulaire étant fort malade, et d'ailleurs votant mal aux élections, etc. De Cholin. En marge de cette pétition était une apostille signée De Moirot et qui commençait par cette ligne. J'ai eu l'honneur de parler hier du bon sujet qui fait cette demande, etc. Ainsi, même cet imbécile de Cholin me montre le chemin qu'il faut suivre, se dit Julien. 8 jours après le passage du roi de à Verrières, ce qui surnageait des innombrables mensonges, sottes interprétations, discussions ridicules, etc., etc., dont avaient été l'objet successivement le roi, l'évêque d'Agde, le marquis de la Mole, les 10 000 bouteilles de vin, le pauvre tombé de Moirot, qui, dans l'espoir d'une croix, ne sortit de chez lui qu'un mois après sa chute, ce fut l'indécence extrême d'avoir bombardé dans la garde d'honneur Julien Sorel, fils d'un charpentier. Il fallait entendre à ce sujet les riches fabricants de toiles peintes qui, soir et matin, s'enrouaient au café à prêcher l'égalité. Cette femme hautaine, Madame de Rênal, était l'auteur de cette abomination. La raison ? Les beaux yeux et les joues si fraîches du petit abbé Sorel la disaient de reste. Peu après le retour à Vergy, Stanislas Xavier, le plus jeune des enfants, prit la fièvre. Tout à coup, Madame de Rênal tomba dans des remords affreux. Pour la première fois, elle se reprocha son amour d'une façon suivie. Elle sembla comprendre, comme par miracle, dans quelle faute énorme elle s'était laissée entraîner. Quoique d'un caractère profondément religieux, jusqu'à ce moment, elle n'avait pas songé à la grandeur de son crime aux yeux de Dieu. Jadis, au couvent du Sacré-Cœur, elle avait aimé Dieu avec passion. Elle le craignit de même en cette circonstance. Les combats qui déchiraient son âme étaient d'autant plus affreux qu'il n'y avait rien de raisonnable dans sa peur. Julien éprouva que le moindre raisonnement l'irritait, loin de la calmer. Elle y voyait le langage de l'enfer. Cependant, comme Julien aimait beaucoup lui-même le petit Stanislas, il était mieux venu à lui parler de sa maladie. Elle prit bientôt un caractère grave. Alors le remords continu ôta Madame de Rênal jusqu'à la faculté de dormir. Elle ne sortait point d'un silence farouche. Si elle eût ouvert la bouche, c'eût été pour avouer son crime, à Dieu et aux hommes. « Je vous en conjure, lui disait Julien dès qu'il se trouvait seul. Ne parlez à personne, que je sois le seul confident de vos peines. Si vous m'aimez encore, ne parlez pas. Vos paroles ne peuvent ôter la fièvre à notre Stanislas. » Mais ces consolations ne produisaient aucun effet. Il ne savait pas que Madame de Rênal s'était mis dans la tête que pour apaiser la colère du dieu jaloux, il fallait haïr Julien ou voir mourir son fils. C'était parce qu'elle sentait qu'elle ne pouvait haïr son amant qu'elle était si malheureuse. « Fuyez-moi, » dit-elle un jour à Julien. « Au nom de Dieu, quittez cette maison. C'est votre présence ici qui tue mon fils. » « Dieu me punit, » ajouta-t-elle à voix basse. « Il est juste, j'adore son équité. Mon crime est affreux et je vivais sans remords. C'était le premier signe de l'abandon de Dieu. je dois être puni doublement. » Julien fut profondément touché. Il ne pouvait voir là ni hypocrisie, ni exagération. Elle croit tuer son fils en m'aimant, et cependant la malheureuse m'aime plus que son fils. Voilà, je n'en puis douter, le remords qui la tue. Voilà de la grandeur dans les sentiments. Mais comment ai-je pu inspirer un tel amour, moi, si pauvre, si mal élevé, si ignorant, et quelquefois si grossier dans mes façons? Une nuit, l'enfant fut au plus mal. Vers les 2 heures du matin, monsieur de Rênal vint le voir. L'enfant, dévoré par la fièvre, était fort rouge et ne put reconnaître son père. Tout à coup, madame de Rênal se jeta aux pieds de son mari. Julien vit qu'elle allait tout dire et se perdre à jamais. Par bonheur, ce mouvement singulier importuna monsieur de Rênal. « Adieu, adieu !» dit-il en s'en allant. « Non, écoute-moi !» s'écria sa femme à genoux devant lui et cherchant à le retenir. « Apprends toute la vérité, c'est moi qui tue mon fils. Je lui ai donné la vie et je la lui reprends. Le ciel me punit aux yeux de Dieu, je suis coupable de meurtre. Il faut que je me perde et m'humilie moi-même. Peut-être ce sacrifice apaisera le Seigneur. » Si monsieur de Rênal eût été un homme d'imagination, il savait tout. « Idée romanesque ! » s'écria-t-il en éloignant sa femme, qui cherchait à embrasser ses genoux. « Idée romanesque que tout cela ! Julien, faites appeler le médecin à la pointe du jour. » Et il retourna se coucher. Madame de Rênal tomba à genoux, à demi évanouie, en repoussant avec un mouvement convulsif Julien qui voulait la secourir. Julien resta étonné. « Voilà donc l'adultère, se dit-il. Serait-il possible que ces prêtres, si fourbes, eussent raison? Eux qui commettent tant de péchés auraient le privilège de connaître la vraie théorie du péché? Quelle bizarrerie !» Depuis 20 minutes que monsieur de Rênal s'était retiré, Julien voyait la femme qu'il aimait, la tête appuyée sur le petit lit de l'enfant, immobile et presque sans connaissance. Voilà une femme d'un génie supérieur, réduite au comble du malheur parce qu'elle m'a connue, se dit-il. Les heures avancent rapidement. Que puis-je pour elle? Il faut se décider, il ne s'agit plus de moi ici. Que m'importent les hommes et leurs plates simagrées? Que puis-je pour elle? La quitter? Mais je la laisse seule en proie à la plus affreuse douleur. Cet automate de mari lui nuit plus qu'il ne lui sert. Il lui dira quelques mots durs à force d'être grossier. Elle peut devenir folle, se jeter par la fenêtre. Si je la laisse, si je cesse de veiller sur elle, elle lui avouera tout. Et que sait-on, peut-être, malgré l'héritage qu'elle doit lui apporter, il fera une esclandre. Elle peut tout dire, grand Dieu, à ce c d'abbé Masson, qui prend prétexte de la maladie d'un enfant de 6 ans pour ne plus bouger de cette maison, et non sans dessein. Dans sa douleur et sa crainte de Dieu, elle oublie tout ce qu'elle sait de l'homme, elle ne voit que le prêtre. « Va-t'en !» lui dit tout à coup madame de Rênal en ouvrant les yeux. « Je donnerai 1000 fois ma vie pour savoir ce qui peut être le plus utile, » répondit Julien. « Jamais je ne t'ai tant aimé, mon cher ange. Ou plutôt de cet instant seulement, je commence à t'adorer comme tu mérites de l'être. Que deviendrai-je loin de toi, et avec la conscience que tu es malheureuse par moi? Mais qu'il ne soit pas question de mes souffrances. Je partirai, oui, mon amour. Mais si je te quitte, si je cesse de veiller sur toi, de me trouver sans cesse entre toi et ton mari, tu lui dis tout, tu te perds. Songe que c'est avec ignominie qu'il te chassera de sa maison. Tout Verrières, tout Besançon parleront de ce scandale. On te donnera tous les torts. Jamais tu ne te relèveras de cette honte. » « C'est ce que je demande !» s'écria-t-elle en se levant debout. « Je souffrirai, tant mieux !» Mais par ce scandale abominable, tu feras aussi son malheur à lui. mais je m'humilie moi-même, je me jette dans la fange, et par là peut-être je sauve mon fils. Cette humiliation aux yeux de tous, c'est peut-être une pénitence publique. Autant que ma faiblesse peut en juger, n'est-ce pas le plus grand sacrifice que je puisse faire à Dieu? Peut-être daignera-t-il prendre mon humiliation et me laisser mon fils. Indique-moi un autre sacrifice plus pénible et j'y cours.
Laisse-moi me punir. Moi aussi, je suis coupable. Veux-tu que je me retire à la trappe? L'austérité de cette vie peut apaiser ton Dieu. Ah, ciel! Que ne puis-je prendre pour moi la maladie de Stanislas?
Ah, tu l'aimes, toi!
Dit madame de Rênal en se relevant et en se jetant dans ses bras. Au même instant, elle le repoussa avec horreur.
Je te crois! Je te crois!
Continua-t-elle après s'être remise à genoux.
Oh, mon unique ami! Oh, pourquoi n'es-tu pas le père de Stanislas? Alors, ce ne serait pas un horrible péché de t'aimer mieux que ton fils.
Veux-tu me permettre de rester, et que désormais je ne t'aime que comme un frère? C'est la seule expiation raisonnable. Elle peut apaiser la colère du Très-Haut.
Et moi?
S'écria-t-elle en se levant et prenant la tête de Julien entre ses deux mains et la tenant devant ses yeux à distance.
Et moi, t'aimerais-je comme un frère? Est-il en mon pouvoir de t'aimer comme un frère?
Julien fondait en larmes.
Je t'obéirai, dit-il en tombant à ses pieds. Je t'obéirai quoi que tu m'ordonnes. C'est tout ce qui me reste à faire. Mon esprit est frappé d'aveuglement. Je ne vois aucun parti à prendre. Si je te quitte, tu dis tout à ton mari. Tu te perds et lui avec. Jamais, après ce ridicule, il ne sera nommé député. Si je reste, tu me crois la cause de la mort de ton fils et tu meurs de douleur. Veux-tu essayer de l'effet de mon départ? Si tu veux, je vais me punir de notre faute en te quittant pour 8 jours. J'irai les passer dans la retraite où tu voudras. À l'abbaye de Bray-le-Haut, par exemple. Mais jure-moi, pendant mon absence, de ne rien avouer à ton mari. Songe que je ne pourrai plus revenir si tu parles. » Elle promit, il partit, mais fut rappelé au bout de 2 jours. « Il m'est impossible sans toi de tenir mon serment. Je parlerai à mon mari si tu n'es pas là constamment pour m'ordonner par tes regards de me taire. » Chaque heure de cette vie abominable me semble durer 1 journée. »
Enfin, le ciel eut pitié de cette mère malheureuse. Peu à peu, Stanislas ne fut plus en danger. Mais la glace était brisée. Sa raison avait connu l'étendue de son péché. Elle ne put plus reprendre l'équilibre. Les remords restèrent, et ils furent ce qu'ils devaient être dans un cœur si sincère. Sa vie fut le ciel et l'enfer. L'enfer quand elle ne voyait pas Julien, le ciel quand elle était à ses pieds.
« Je ne me fais plus aucune illusion, » lui disait-elle, même dans les moments où elle osait se livrer à tout son amour. « Je suis damnée, irrémissiblement damnée. Tu es jeune, tu as cédé à mes séductions, mais moi, je suis damnée, je le connais à un signe certain. J'ai peur. » Qui n'aurait pas peur devant la vue de l'enfer? Mais au fond, je ne me repens point. Je commettrai de nouveau ma faute si elle était à commettre. Que le ciel seulement ne me punisse pas dès ce monde et dans mes enfants, et j'aurai plus que je ne mérite. Mais toi, du moins, mon Julien, s'écriait-elle dans d'autres moments, es-tu heureux? Trouves-tu que je t'aime assez? La méfiance et l'orgueil souffrant de Julien, qui avait surtout besoin d'un amour à sacrifice, ne tinrent pas devant la vue d'un sacrifice si grand, si indubitable, et fait à chaque instant. Il adorait madame de Rênal. Elle a beau être noble, et moi le fils d'un ouvrier, elle m'aime. Je ne suis pas auprès d'elle un valet de chambre chargé des fonctions d'amant. Cette crainte éloignée, Julien tomba dans toutes les folies de l'amour, dans ses incertitudes mortelles. « Au moins, s'écriait-elle en voyant ses doutes sur son amour, que je te rende bien heureux pendant le peu de jours que nous avons à passer ensemble. Hâtons-nous, Demain, peut-être, je ne serai plus à toi. Si le ciel me frappe dans mes enfants, c'est en vain que je chercherai à ne vivre que pour t'aimer, à ne pas voir que c'est mon crime qui les tue. Je ne pourrai survivre à ce coup. Quand je le voudrais, je ne pourrais, je deviendrais folle. Ah, si je pouvais prendre sur moi ton péché, comme tu m'offrais si généreusement de prendre la fièvre ardente de Stanislas. Cette grande crise morale changea la nature du sentiment qui unissait Julien à sa maîtresse. Son amour ne fut plus seulement de l'admiration pour la beauté, l'orgueil de la posséder. Leur bonheur était désormais d'une nature bien supérieure. La flamme qui les dévorait fut plus intense. Ils avaient des transports pleins de folie. Leur bonheur eût paru plus grand aux yeux du monde. Mais ils ne retrouvèrent plus la sérénité délicieuse, la félicité sans nuages, le bonheur facile des premières époques de leurs amours, quand la seule crainte de Madame de Rênal était de n'être pas assez aimée de Julien. Leur bonheur avait quelquefois la physionomie du crime. Dans les moments les plus heureux, et en apparence les plus tranquilles, « Ah, grand Dieu, je vois l'enfer !» s'écriait tout à coup Madame de Rênal en serrant la main de Julien d'un mouvement convulsif. « Quel supplice horrible ! Je les ai bien mérités !» Elle le serrait, s'attachant à lui comme le lierre à la muraille. Julien essayait en vain de calmer cette âme agitée. Elle lui prenait la main qu'elle couvrait de baisers. Puis, retombée dans une rêverie sombre, « L'enfer, disait-elle, l'enfer serait une grâce pour moi. J'aurais encore sur la terre quelques jours à passer avec lui. Mais l'enfer dès ce monde, la mort de mes enfants... Cependant, à ce prix, peut-être mon crime me serait pardonné. Ah, grand Dieu, ne m'accordez point ma grâce à ce prix. Ces pauvres enfants ne vous ont point offensé. Moi, je suis la seule coupable. J'aime un homme qui n'est point mon mari. » Julien voyait ensuite Madame de Rênal arriver à des moments tranquilles en apparence. Elle cherchait à prendre sur elle. Elle voulait ne pas empoisonner la vie de ce qu'elle aimait. Au milieu de ces alternatives d'amour, de remords et de plaisir, les journées passaient pour eux avec la rapidité de l'éclair. Julien perdit l'habitude de réfléchir. Mademoiselle Élisa alla suivre un petit procès qu'elle avait à Verrières. Elle trouva M. Valenod fort piqué contre Julien. Elle haïssait le précepteur et lui en parlait souvent. « Vous me perdriez, monsieur, si je disais la vérité, » disait-elle un jour à M. Valenod. « Les maîtres sont tous d'accord entre eux pour les choses importantes. On ne pardonne jamais certains aveux aux pauvres domestiques. » Après ces phrases d'usage, que l'impatiente curiosité de M. Valenod trouva l'art d'abréger, il apprit les choses les plus mortifiantes pour son amour-propre. Cette femme, la plus distinguée du pays, que pendant 6 ans il avait environnée de tant de soins, et malheureusement au vu et au su de tout le monde, cette femme, si fière, dont les dédains l'avaient tant de fois fait rougir, elle venait de prendre pour amant un petit ouvrier déguisé en précepteur. Et afin que rien ne manquât au dépit de monsieur le directeur du dépôt, Madame de Rênal adorait cet amant. « Et, ajoutait la femme de chambre avec un soupir, monsieur Julien ne s'est point donné de peine pour faire cette conquête. Il n'est point sorti pour madame de sa froideur habituelle. » Élisa n'avait eu des certitudes qu'à la campagne, mais elle croyait que cette intrigue datait de bien plus loin. « C'est sans doute pour cela, ajouta-t-elle avec dépit, que dans le temps il a refusé de m'épouser. Et moi, imbécile, qui allais consulter Madame de Rênal, qui l'a prié de parler au précepteur. » Dès le même soir, Monsieur de Rênal reçut de la ville, avec son journal, une longue lettre anonyme qui lui apprenait dans le plus grand détail ce qui se passait chez lui. Julien le vit pâlir en lisant cette lettre écrite sur du papier bleuâtre et jetaient sur lui des regards méchants. De toute la soirée, le maire ne se remit point de son trouble. Ce fut en vain que Julien lui fit la cour en lui demandant des explications sur la généalogie des meilleures familles de la Bourgogne. Chapitre 20. Les lettres anonymes. Comme on quittait le salon sur le minuit, Julien eut le temps de dire à son ami « Ne nous voyons pas ce soir, votre mari a des soupçons. Je jurerai que cette grande lettre qu'il lisait en soupirant est une lettre anonyme. » Par bonheur, Julien se fermait à clef dans sa chambre. Madame de Rênal eut la folle idée que cet avertissement n'était qu'un prétexte pour ne pas la voir. Elle perdit la tête absolument, et à l'heure ordinaire vint à sa porte. Julien, qui entendit du bruit dans le corridor, souffla sa lampe à l'instant. On faisait des efforts pour ouvrir sa porte. Était-ce Madame de Rênal ou était-ce un mari jaloux? Le lendemain, de fort bonne heure, la cuisinière qui protégeait Julien lui apporta un livre sur la couverture duquel il lut ces mots écrits en italien « Guardate alla pagina 130 ». Julien frémit de l'imprudence, chercha la page 130 et y trouva, attachée avec une épingle, la lettre suivante écrite à la hâte, baignée de larmes et sans la moindre orthographe. Ordinairement, Madame de Rênal la mettait fort bien. Il fut touché de ce détail et oublia un peu l'imprudence effroyable. « Tu n'as pas voulu me recevoir cette nuit. Il est des moments où je crois n'avoir jamais lu jusqu'au fond de ton âme. Tes regards m'effraient. J'ai peur de toi. Grand Dieu, ne m'aurais-tu jamais aimé? En ce cas, que mon mari découvre nos amours et qu'il m'enferme dans une éternelle prison, à la campagne, loin de mes enfants. Peut-être Dieu le veut ainsi. Je mourrai bientôt. Mais tu seras un monstre. Ne m'aimes-tu pas? Es-tu là de mes folies, de mes remords, impie? Veux-tu me perdre? Je t'en donne un moyen facile. Va, montre cette lettre dans tout Verrières, ou plutôt montre-la au seul monsieur Valneau. Dis-lui que je t'aime, mais non, ne prononce pas un tel blasphème. Dis-lui que je t'adore, que la vie n'a commencé pour moi que le jour où je t'ai vu, que dans les moments les plus fous de ma jeunesse, je n'avais jamais même rêvé le bonheur que je te dois. Que je t'ai sacrifié ma vie, que je te sacrifie mon âme. Tu sais que je te sacrifie bien plus. Mais se connaît-il en sacrifice cet homme? Dis-lui, dis-lui pour l'irriter, que je brave tous les méchants, et qu'il n'est plus au monde qu'un malheur pour moi, celui de voir changer le seul homme qui me retienne à la vie. Quel bonheur pour moi de la perdre, de l'offrir en sacrifice, et de ne plus craindre pour mes enfants. N'en doute pas, cher ami, s'il y a une lettre anonyme, elle vient de cet être odieux, qui pendant 6 ans m'a poursuivi de sa grosse voix, du récit de ses sauts à cheval, de sa fatuité et de l'énumération éternelle de tous ses avantages. Y a-t-il une lettre anonyme? Méchant, voilà ce que je voulais discuter avec toi. Mais non, tu as bien fait. Te serrant dans mes bras, peut-être pour la dernière fois, jamais je n'aurais pu discuter froidement comme je fais étant seul. De ce moment, notre bonheur ne sera plus aussi facile. Sera-ce une contrariété pour vous? Oui, les jours où vous n'aurez pas reçu de M. Fouquet quelques livres amusants. Le sacrifice est fait. Demain, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de lettre anonyme, moi aussi je dirai à mon mari que j'ai reçu une lettre anonyme. Et qu'il faut à l'instant te faire un pont d'or, trouver quelque prétexte honnête et sans délai te renvoyer à tes parents. Hélas, cher ami, nous allons être séparés 15 jours, un mois peut-être. Va, je te rends justice, tu souffriras autant que moi. Mais enfin, voilà le seul moyen de parer l'effet de cette lettre anonyme. Ce n'est pas la première que mon mari ait reçue, et sur mon compte encore. Hélas, combien j'en riais! Tout le but de ma conduite, c'est de faire penser à mon mari que la lettre vient de M. Valeneau. Je ne doute pas qu'il n'en soit l'auteur. Si tu quittes la maison, ne manque pas d'aller t'établir à Verrières. Je ferai en sorte que mon mari ait l'idée d'y passer 15 jours pour prouver au sot qu'il n'y a pas de froid entre lui et moi. Une fois à Verrières, lie-toi d'amitié avec tout le monde, même avec les libéraux. Je sais que toutes ces dames te rechercheront. Ne va pas te fâcher avec Monsieur Valenod, ni lui couper les oreilles, comme tu disais un jour. Fais-lui au contraire toutes tes bonnes grâces. L'essentiel est que l'on croie à Verrières que tu vas entrer chez le Valenod, ou chez tout autre, pour l'éducation des enfants. Voilà ce que mon mari ne souffrira jamais. Dût-il s'y résoudre, eh bien, au moins tu habiteras Verrières, et je te verrai quelquefois. Mes enfants qui t'aiment tant iront te voir. Grand Dieu, je sens que j'aime mieux mes enfants parce qu'ils t'aiment. Quel remords! Comment tout ceci finira-t-il? Je m'égare. Enfin, tu comprends ta conduite. Sois doux, poli, point méprisant avec ces grossiers personnages. Je te le demande à genoux. Ils vont être les arbitres de notre sort. Ne doute pas un instant que mon mari ne se conforme à ton égard à ce que lui prescrira l'opinion publique. C'est toi qui vas me fournir la lettre anonyme. Arme-toi de patience et d'une paire de ciseaux. Coupe dans un livre les mots que tu vas voir. Colle-les ensuite, avec de la colle à bouche, sur la feuille de papier bleuâtre que je t'envoie. Elle me vient de Monsieur Valenod. Attends-toi à une perquisition chez toi. Brûle les pages du livre que tu auras mutilé. Si tu ne trouves pas les mots tout faits, aie la patience de les former lettre à lettre. Pour épargner ta peine, j'ai fait la lettre anonyme trop courte. Hélas, si tu ne m'aimes plus, comme je le crains, que la mienne doit te sembler longue. Lettre anonyme. Madame, toutes vos petites menées sont connues, mais les personnes qui ont intérêt à les réprimer sont averties. Par un reste d'amitié pour vous, je vous engage à vous détacher totalement du petit paysan. Si vous êtes assez sage pour cela, votre mari croira que l'avis qu'il a reçu le trompe, et on lui laissera son erreur. Songez que j'ai votre secret. Tremblez, malheureuse. Il faut à cette heure marcher droit devant moi. Dès que tu auras fini de coller les mots qui composent cette lettre, y as-tu reconnu les façons de parler du directeur? Sors dans la maison, je te rencontrerai. J'irai dans le village et reviendrai avec un visage troublé. Je le serai en effet beaucoup. Grand Dieu, qu'est-ce que je hasarde, et tout cela parce que tu as cru deviner une lettre anonyme. Enfin, avec un visage renversé, je donnerai à mon mari cette lettre qu'un inconnu m'aura remise. Toi, va te promener sur le chemin des grands bois avec les enfants, et ne reviens qu'à l'heure du dîner. Du haut des rochers, tu peux voir la tour du Colombier. Si nos affaires vont bien, j'y placerai un mouchoir blanc. Dans le cas contraire, il n'y aura rien. Ton cœur, ingrat, ne te fera-t-il pas trouver le moyen de me dire que tu m'aimes avant de partir pour cette promenade? Quoi qu'il puisse arriver, sois sûr d'une chose, je ne survivrai pas d'un jour à notre séparation définitive. Ah, mauvaise mère! Ce sont deux mots vains que je viens d'écrire là, cher Julien. Je ne les sens pas. Je ne puis songer qu'à toi en ce moment. Je ne les ai écrits que pour ne pas être blâmée de toi. Maintenant que je me vois au moment de te perdre, à quoi bon dissimuler? Oui, que mon âme te semble atroce, mais que je ne mente pas devant l'homme que j'adore. Je n'ai déjà que trop trompé en ma vie. Va, je te pardonne si tu ne m'aimes plus. Je n'ai pas le temps de relire ma lettre. C'est peu de chose à mes yeux que de payer de la vie les jours heureux que je viens de passer dans tes bras. Tu sais qu'ils me coûteront davantage. »